écrit par Éric Verdier aux éditions H&O, Homosexualité et suicide en 2003 et Petit manuel de guérilla à l'usage des jeunes cette année. Vous pouvez retrouver toutes ces références par l'intermédiaire de notre site internet franceculture.com, tout attaché, tout minuscule. C'était un documentaire proposé par Joseph Confavreux, attaché d'émission Avril Ventura, mixage Jason Taous, réalisation Vanessa Nadjar.
Ένας μάγκας στα σαλόνια.
Τώρα μου λάθησε να αγαπώ.
Μόνο εμέν.
Κουρελέ.
Φτού.
Φεγγάνι.
Καλές γιορτές. Χρόνια πολλά. Μ' αγάπη πάντα η καρδιά μας μαζιά.
Mon avis, il faut être toujours prêt à donner et à recevoir.
Écoutez.
Avec la même grâce.
Vous êtes sur France Culture.
La Radio
France. Éloge du savoir. Ce matin, le Collège de France. On sait que l'injure béotien a été lancée par les Athéniens pour dévaloriser leurs rivaux. Mais depuis 2 ans, nous visitons la Béotie grâce au professeur Denis Knopfler qui commente le livre 9 de la Périégèse, sorte de journal de voyage écrit au IIe siècle par l'écrivain voyageur Pausanias, et nous nous rendons bien compte que la Béotie, son histoire, son art, notamment la musique, ses fêtes, ses dieux et ses héros sont d'un raffinement extrême. La connaissance de la Béotie, telle qu'elle apparaît dans ce cours, est somme toute récente. Elle est même en devenir, puisque les fouilles archéologiques menées actuellement nous promettent d'importantes découvertes dans les prochaines années. La riche enquête conduite par Denis Knopfler donne une idée de ce que les savoirs croisés par ce grand érudit, titulaire de la chaire d'épigraphie et histoire des cités grecques au Collège de France, autorise comme effet de connaissance. Sur les traces de Pausanias, nous avons visité dans le dernier cours la ville de Tanagra, qui fut dans l'Antiquité une des grandes villes de Béotie et dont les rares vestiges permettaient de comprendre l'agencement urbain en 2 zones, une zone haute et une zone basse. Ce matin, nous restons à Tanagra et pour mieux suivre ce cours, si toutefois vous avez accès à un site internet, je vous signale qu'on trouve la carte de la Béotie antique et les itinéraires de Pausanias sur le site du professeur Knopfler www.collège-de-france.fr.
Cité d'agriculteurs et surtout de viticulteurs, Ampelurgoi, bien plus que d'artisans et de marchands, Tanagra disposait à l'époque hellénistique et romaine d'un vaste territoire, certainement l'un des plus étendus et les plus fertiles de toute la Béotie. Ce territoire, en effet, a connu diverses phases d'accroissement au cours de l'histoire. L'agrandissement le plus considérable, survenant au lendemain de la destruction de Thèbes en 335. Avec l'approbation d'Alexandre, les Tanagraïens héritaient alors, si l'on peut dire, d'une importante portion de la Thébaïde orientale. Mais, on l'a déjà noté, que cet accroissement fut, en partie au moins, d'assez courte durée. Peut-être dès la reconstruction de Thèbes, à partir de 315, et en tout cas, au plus tard, en 287, quand les Béotiens acceptèrent enfin de réintégrer cette cité dans leur koinon, Tanagra dut nécessairement restituer à Thèbes une partie au moins des terres acquises un demi-siècle plus tôt. On peut le déduire du fait que dans la confédération béotienne hellénistique, la cité de Thèbes a une position égale à celle des 2 grandes cités de Thespie, d'une part, et de Tanagra, de l'autre. Ces poleis sont en effet les seuls, à l'époque hellénistique, à être représentés de manière absolument constante dans les collèges fédéraux, comme le montre ce tableau, les trois premières colonnes des cités les plus importantes, toujours présentes, autant qu'on le voit à travers nos documents, qu'il s'agisse du collège des Aphédriates, du collège des Béotarques, ou d'autres collèges encore, d'Hipparque, ou que sais-je. Il y a donc là un enseignement extrêmement important. Et dans une série de travaux publiés en ces dernières années, j'ai montré que ce système impliquait un regroupement des cités moyennes et petites en unités territoriales pesant chacune le même poids, point de vue militaire et fiscal notamment, que les plus grandes. L'ensemble du territoire était divisé en 7 districts, quel que soit le nom de ces districts, Méros ou probablement Telos. Alors que le système des districts avait paru jusque-là totalement étranger à la béotie hellénistique. Indépendamment, un chercheur allemand de bonne renommée, Thomas Korsten, est parvenu dans un livre paru en 1999, Vom Staat zum Bund, au même résultat, ce qui donne peut-être quelques poids à notre conclusion d'ensemble. Mais il reste entre nous quelques points de désaccord. Or, l'une de nos principales divergences porte sur l'extension du territoire de Tanagra à l'époque hellénistique, comme le font voir d'emblée ces deux cartes que je mets sous vos yeux en confrontation. La carte de Korsten en haut et la mienne en bas. Division donc en 7 districts, voire 8 dans des circonstances particulières d'accroissement de la confédération béotienne. D'une part, en effet, M. Korsten pense, ou peut-être seulement laisse voir ou laisse croire, car il n'a pas défendu cette opinion de manière détaillée, que la Thèbes hellénistique parvint à remettre la main sur une bonne partie du territoire côtier, dans le secteur donc du canal de l'Eubée en face de l'Euripe. On verra tout à l'heure dans quel sens font pencher la balance, puisque selon moi, ce territoire thébain, après 287, est beaucoup plus réduit, n'atteignant plus la côte. D'autre part, et peut-être surtout, si nous sommes d'accord, lui et moi, pour penser que l'un des 7 districts auxquels j'ai donné le chiffre romain 5, donc vers le sud, regroupait les deux cités de Platée et d'Oropos, chose qui n'avait pas été soupçonnée du tout jusque-là, Korsten a exprimé de manière plus ou moins implicite, à travers sa carte en particulier, qu'il emprunte certes à un document plus ancien, ce qui était peut-être un tout petit peu dangereux de sa part, que la Plataïde et l'Oropie ne constituaient pas une unité géographique, puisque ces deux territoires, Platée et Oropos, étaient séparés en réalité par celui de Tanagra, alors que j'ai cru pouvoir supposer que la Plataïde et l'Oropie formaient un district, si vous voulez, continu, d'un seul tenant. De fait, il est très largement admis, je le reconnais, que la Tanagraïque s'étendait jusqu'au mont Parnèse et était de ce côté-là immédiatement limitrophe de l'Attique. Voici la vue, une vue que l'on a, peut-être vais-je masquer un instant transparent, la vue que l'on a depuis l'une des portes de Tanagra en direction de l'Attique, la plaine, le Parnèse à droite, puis les contreforts en direction de la passe de Décélie, tout ce pays de l'Azopos qui débouche dans l'Oropie et dans le canal de l'Eubée. Donc le mont Parnèse est bien visible depuis Tanagra. Et Donc, on doit constater que c'est bien ce que disent ou laissent entendre un Hérodote, un Strabon, à leur époque respective. Mais par ailleurs, on constate que les autres districts, les six autres districts, et non pas seulement ceux des grandes cités de Thèbes ou de Tanagra, je reviens à notre carte, forment un tout géographique. Et même lorsque ces unités réunissent plusieurs cités, ainsi le district 7, plus considérable que ne l'a cru Corsten, qui englobe toutes les cités de la rive orientale du Copaïs, ou le district 6, de part et d'autre du mont Hélicon, à la fois au nord et au sud. L'exception donc qu'aurait constitué ainsi le district 5 m'a semblé, me semble toujours, un peu gênante. Aussi, ai-je cru pouvoir rester fidèle à cette opinion d'un district continu, ce qui, évidemment, il faut en avoir conscience, implique pour Tanagra un territoire à l'époque hellénistique bien plus restreint de ce côté-là. Mais naturellement, cette situation fut temporaire. En 172, avant Jésus-Christ, le Koinon fut dissous, il ne faut jamais l'oublier. Le district 5 cessa du même coup d'exister. Tanagra put en profiter pour s'étendre à nouveau du côté du piémont du Parnès. La chose est d'autant plus vraisemblable qu'à partir de la guerre achaïque en 146, on y reviendra dans un instant, jusqu'à la guerre mithridatique, deux épisodes très importants de la conquête romaine, il n'y eut plus apparemment de cité d'Oropos, son territoire ayant été au moins partiellement cédé, je crois, aux gens d'Érétrie, alliés du vainqueur en 146. Donc une espèce de vide, de vacuum, dont sans doute les gens de Tanagra ont profité pour s'étendre à nouveau du côté de l'Azopos et du Parnès. Or Strabon, justement, rédigea sa géographie à l'époque d'Auguste, à un moment où, il est vrai, après une brève période de reconstitution de la cité d'Oropos, celle-ci fut annexée de manière, on peut dire, définitive par Athènes. Donc, à partir de l'époque d'Auguste, à partir de l'époque de Strabon, la Tanagraïque est limitrophe de l'Attique, c'est absolument clair. Mais pour la géographie historique, c'est un autre passage de Strabon qui me semble devoir être compris autrement qu'on ne l'a fait jusqu'ici. Traitant des bourgades rattachées au territoire de Tanagra, peut-être cette carte-ci, des bourgades qui se trouvent dans ce secteur, le géographe écrit ceci. À gauche de la route qui va de Thèbes à Argos se trouve le territoire de Tanagra et celui de Platée est à droite. Il est vrai que dans ce passage que je mets sous vos yeux, la fin du texte a été rétablie par les philologues, c'est le passage qui est ici, Estideto ectebon eis Argos, etc. Vous voyez que la mention du territoire de Platée est entre crochets, c'est une restitution nécessaire dans la mesure où notre seul témoin pour ce passage, un manuscrit de la Bibliothèque nationale, est malheureusement incomplet et en très mauvais état. Ce qui fait problème dans cette indication, dans cette phrase de Strabon, c'est l'indication eis Argos. Et cela pour deux raisons, je crois. D'une part, il paraît absurde de parler d'une route allant de Thèbes à Argos, puisque toute route allant dans cette direction passe nécessairement, au moins par Mégare, et en tout cas par Corinthe. On a cru pouvoir justifier cette mention d'Argos du fait que Strabon, juste avant, évoque l'expédition des sept contre Thèbes, la grande expédition mythique, et un privilège qui aurait été accordé par les Argiens à cette occasion aux gens du bourg de Arma, dont nous reparlerons dans la Tanagraïque. Mais je croirais bien plutôt que c'est l'allusion aux Argeioi dans cette phrase qui a entraîné l'émergence du nom d'Argos dans la phrase suivante. De fait, le texte traditionnel offre une autre difficulté, c'est que la prétendue route de Thèbes à Argos aurait constitué la frontière entre la Tanagraïque et la Plataïde, ce qui ne correspond pas à la vérité. Le passage par le Citeron ne marque pas cette frontière-là. On est donc incité à chercher un autre toponyme que celui d'Argos, qui ne me semble pas du tout en situation. Des corrections avaient été proposées autrefois, je les signale que pour mémoire, Eis Arma, ça n'a guère de sens, puisque ça n'est pas du tout la direction attendue, et Arma n'est pas un point d'arrivée pour une route importante. On a songé évidemment à Eis Athénas, mais la corruption du texte serait alors difficile à expliquer. Et en fait, de routes d'Athènes, il y en a plusieurs, et très différentes de Thèbes à Athènes. Cela n'est guère satisfaisant. Il faut donc s'orienter vers une autre solution. Dès l'époque où le regretté Raoul Balladier préparait, voici depuis plus de 10 ans, son édition du livre 9 de la géographie, donc le livre de la Grèce centrale, je lui ai fait part, en tant que réviseur attitré du chapitre béotien, la suggestion d'écrire ici Eis Oropon. Le toponyme Oropos donnerait en tout cas à la phrase un contenu extrêmement satisfaisant. Oropos a en effet été mentionné plus haut par Strabon. D'autre part, une route allant de Thèbes à Oropos existait bel et bien. Elle empruntait le vallon de l'Asopos. Or, celui-ci, précisément, faisait la frontière entre, d'un côté, à gauche, le territoire de Tanagra, et à droite, dans cette direction, celui de Platée. Balladier n'a pas retenu ma suggestion, je ne saurais lui en vouloir. Il a préféré ne pas corriger, philologue peut-être qu'il était, mais je crois que dans certains cas, il faut tout de même s'y résoudre. Et cette solution me paraît être, même d'un point de vue paléographique, Eis Oropon, corrompu en Eis Argos, me paraît quand même actuellement la plus satisfaisante. L'autre problème qui se pose à propos du territoire de Tanagra, c'est, on l'a dit, celui de son extension vers la côte, en face de Chalcis. La question revient en fait à se demander s'il y a place dans ce secteur. Dans ce secteur ici, donc, vous avez Thèbes, Tanagra, vous avez Chalcis. S'il y a place dans ce secteur, disais-je, pour une cité indépendante, à savoir Mykalessos ou Mykalettos, comme le suggère d'une certaine manière le découpage théorique qu'ont opéré sur le territoire béotien nos collègues de Lyon, en adoptant des modèles, si vous voulez, soit sous la forme de polygones ou de cercles. Je prends très rapidement ces exemples. Ici, nous constatons l'existence donc d'un cercle évident pour Tanagra, de toute sa plaine, pour Anthédon, pour Thèbes. Mais vous constatez que dans cette zone, en fait, les cercles ne se recoupent pas, et qu'il y a place pour une petite cité qui aurait nom Mykalessos, au pied sud du mont Messapion. La chose est tout aussi évidente quand on applique des polygones. Vous constatez qu'il y a une ligne qui passe là au nord de Tanagra, de façon très arbitraire, tout près de Mykalessos, alors qu'il y a un territoire qui s'étend jusqu'au Messapion, et que ce territoire-ci ne peut en aucune façon appartenir à Anthédon, qui est séparé nettement de la plaine tanagraïque par la montagne. Les deux cas me semblent donc suggérer que il y a place pour une cité indépendante à cet endroit. En tout cas, il vaut la peine, je crois, de s'intéresser un instant à Mykalessos, qui le fait le plus souvent l'objet que de brèves mentions dans la littérature ancienne et les travaux modernes. Cette ville se trouvait sur cette route de Thèbes à Chalcis, que Pausanias avait, chose remarquable, déjà mentionné dans son livre 1, dans les Attica, chapitre 34, à propos du mythe d'Amphiaraos à Arma, preuve, comme je l'avais noté dans mon introduction de l'an dernier, qu'il avait parcouru la Béotie au moment où il écrivait les Attica, et bien avant qu'il ne rédige le livre 9. Sur cette route importante, et que Pausanias, dans l'ensemble, a très correctement décrite. Vous avez son texte sous les yeux, que je ne commenterai que très partiellement. Notre auteur a rencontré d'abord le bourg de Teumessens, vous le voyez ici, le bourg de Teumessens, puis en quittant un moment la grande route, il le dit clairement, ce qu'il appelle le Léophoros, la route principale, pour s'infléchir sur la gauche vers le site de Glissas, qui est ici, hein, site de Glissas, situé, il le dit fort clairement, au pied du mont Hypatos, aujourd'hui la montagne de Stagmata, montagne qui est un magnifique belvédère pour pratiquement toute la Béotie et qui limite vers le nord la grande plaine thébaine, la plaine aonienne. Puis toujours d'après Pausanias, viennent les localités de Arma et de Mykalessos. Donc il revient de Glissas, il a fait un petit détour, si vous voulez, au pied du mont Hypatos, et il se dirige vers Arma et Mykalessos. Il les désigne de façon assez remarquable comme des cités, bien qu'il les ait trouvées l'une et l'autre en ruine. Chapitre 19, vous le voyez peut-être, 4, Ereipia estin poléon, armatos kai mykalessou. Pausanias n'indique pas, en fait, qu'il vient de franchir une frontière, mais il le laisse entendre d'une certaine manière en indiquant que le toponyme arma, donc qui veut dire le char, vient de ce que c'était là, au dire des gens de Tanagra, que ce char, le char du devin Amphiaraos avait disparu sous terre. Tandis que les Thébains, ajoute-t-il, qui avaient une autre tradition, plaçaient l'épisode en question en un autre endroit. Autrement dit, ils plaçaient cet épisode dans leur propre territoire, ça paraît clair. Et c'est de manière, d'ailleurs tout à fait non équivoque, qu'après avoir évoqué encore le port et le sanctuaire d'Aulis, on y reviendra, il conclut cette partie de son voyage en écrivant, je cite, je traduis, le texte est sous vos yeux, les Tanagraïens cultivent ce territoire et tout le pays qui touche à Mykalessos et à Arma. Le verbe utilisé ici par Pausanias, nemontai, intéressant par son caractère en quelque sorte technique. Thucydide ne s'exprimait pas différemment pour marquer l'occupation, la mainmise athénienne sur l'Oropie, très voisine sur cette côte, avant 411. Il disait exactement « Nemontai athenaioi, nemontai ten gen, ten graiken », qui est un autre nom pour l'Oropie. On ne saurait donc douter qu'à l'époque impériale, la petite ville de Mykalessos, comme aussi, bien sûr, le bourg de Arma, faisait partie intégrante de la Tanagraïque. Cette annexion est certainement antérieure à l'époque d'Auguste, puisque Strabon affirme déjà avec toute la clarté souhaitable que, je cite, Mykalessos, ou dit-il Mykalettos, il connaît les deux formes, cette dernière, la forme dialectale avec le double tau, est un village commun de la Tanagraïque. En son livre 9, chapitre 2, paragraphe 11. Il dit la même chose pour Arma, sauf que Arma est pour lui un village désert. Come eremos, qui évidemment recoupe l'indication de Pausanias, ta ereipia. Village donc des alentours de Mykalessos, comme il le précise, alors que la ville de Mykalessos est qualifiée simplement de village, non pas de village, désert. Il y a une petite différence entre les deux. À l'époque de Strabon, selon toute apparence, ces localités étaient toujours habitées. On peut d'ailleurs admettre qu'elle était encore au temps de Pausanias. Il faut nuancer son affirmation Ereipia, hein, une ville ruinée. Ce n'est pas nécessairement une ville qui est totalement, ou un bourg qui est totalement déserté par ses habitants. Ce qui le fait penser, c'est que, comme le bourg d'Aulis, donc en bordure de mer, où le Périégète, on verra, note l'existence d'une population toujours active, Mykalettos était un lieu de réunion et de fête pour les éphèbes de Tanagra. Et cela encore au IIIe siècle de notre ère. Cela ressort, on l'a vu la semaine dernière, de catalogues éphébiques mentionnant aussi bien un agonothétès Eis Aulida qu'un agonothétès, je remontre l'inscription trouvée à Calcis mais que Louis Robert a pu très judicieusement et de manière assurée attribuer à Tanagra, Eis Aulida. Eis Mykalasson, une forme dialectale ou évoluée du même toponyme. Donc, un témoignage intéressant, à la fois sur l'existence de ces deux localités, encore au IIIe siècle, et le rôle qu'elles jouent dans la vie de la cité de Tanagra. Et c'est précisément en tirant parti de ces mentions qu'il a pu, dans ses articles de la revue de philologie 1939, puis 44, attribuer ce fragment et d'autres à Tanagra. En revanche, il faut le noter, dans un catalogue du même type, que je montrerai tout à l'heure, de la même époque, tout récemment découvert sur le site de Delion, encore inédit, il n'y a pas de mention, Aulida ou Eis Mykaleton, quelle que soit la forme, quoique le document soit parfaitement conservé, mais il serait imprudent, en tout cas prématuré, d'en tirer une conclusion pour la date possible de disparition de ces concours à Mykalessos et à Aulis. La vraie question qui se pose à nous est de savoir quand Mykalessos cessa d'être une cité indépendante, une police au sens donc plein du mot, de son histoire millénaire, depuis l'époque homérique jusqu'au Bas-Empire, Pausanias ne connaissait en réalité pas grand-chose. Son ancienneté n'est pas soulignée par lui, alors que le Périégète aurait pu l'inférer aisément, non seulement de la mention homérique, mais aussi de celle qui est faite dans l'hymne homérique à Apollon, puisque le dieu, dans ce poème archaïque, était censé avoir fait étape à Mykalessos, après avoir traversé le Rip, le détroit entre le B et la B aussi, et avant l'arrivée à Teumessos. Donc un itinéraire, l'itinéraire d'Apollon, est l'inverse, si vous voulez, de celui que fait Pausanias au IIe siècle. Sans parler de l'indice d'ancienneté que fournit le nom même de Mykalessos, hein, qui est clairement préhellénique. Ça, évidemment, Pausanias ne pouvait pas le deviner. Il se croit au contraire tenu de rapporter l'inepte, il faut bien le dire, étymologie qui mettait ce toponyme en rapport avec le mugissement, le verbe mukaomai, de la vache de Cadmos, donc ces jeux étymologiques qui étaient courants chez les anciens. En fait, le Périégète ne sait positivement qu'une seule chose de cette ville à moitié disparue. C'est le dramatique épisode qu'il avait déjà eu l'occasion de rapporter dans ses Attica, chapitre 23, à propos d'une statue qui se dressait sur l'acropole d'Athènes pour le stratège athénien dit Tréphès. Et cet événement, il se contente tout simplement de le rappeler ou d'y faire allusion dans les Boiotica. Rappelons alors quel était cet épisode fort important. Dit Tréphès était ce général stratège qui était connu pour avoir été chargé à l'époque du siège de Syracuse par les Athéniens, donc en 413 avant Jésus-Christ, de rapatrier des mercenaires venus de Thrace et qu'on n'avait plus les moyens d'employer à Athènes. À la tête d'une escadre, en route vers l'Égée septentrionale, il débarqua inopinément, Pausanias, sur la côte béotienne, à la hauteur de la ville de Chalcis, et de là, il lança ses mercenaires en direction de Mykaletos, dit Pausanias de manière assez succincte. Ville qui était pourtant à l'intérieur des terres. On sait que l'épouvantable massacre par laquelle ce soldat, cette attaque surprise, devait susciter dans toute la Grèce une indignation dont on trouve l'écho chez Thucydide. Pausanias s'est évidemment inspiré de cette page célèbre de la guerre du Péloponnèse, 7-29-30. Mais sans même à se croire tenu de mentionner expressément sa source. Au-delà de son côté pathétique, l'affaire est intéressante, me semble-t-il, pour la géographie historique, l'histoire tout court, car Thucydide fournit un récit assez circonstancié de cette affaire de Mykalessos. Même s'il n'a pas dit, on peut s'en étonner, quelle fut la raison précise de cette attaque par un contingent de mercenaires thraces conduit par un stratège, la vraie raison, c'est que dit Tréphès devait trouver le moyen de payer ses mercenaires. Hein, et il le fait par le biais de cette entreprise de pillage. Mettons une carte un petit peu plus précise de la région de Mykaletos et de Chalcis que j'emprunte aux travaux du regretté chercheur hollandais Backhausen qui a fait plusieurs choses sur la topographie de cette région de la Béotie proche de l'Eubée. Le récit de Thucydide, rappelons ce qu'il est. On voit en premier lieu à travers son texte que Mykaletos n'était sûrement pas dans la dépendance de Tanagra, donc en 413 avant Jésus-Christ. L'historien fait une différence qu'on ne saurait méconnaître entre, d'une part, un premier débarquement opéré par l'escadre athénienne sur le rivage de Tanagra, dit-il, Esten Tanagran. Bon. Tanagra doit être pris ici, dans un sens large, le territoire de Tanagra, et nous sommes là très certainement aux abords, on revient d'Athènes, donc nous sommes là très certainement aux abords de Délion, proche de Tanagra. Et puis alors, il y a la véritable expédition, mais qui se fait un peu plus loin, un nouveau débarquement à Chalcis de B, qui appartient encore aux Athéniens. De Chalcis, l'escadre traverse le bassin ici de l'Euripe, avant le détroit proprement dit, pour passer en terre béotienne et suivre une route que vous voyez bien sur le transparent à partir de Chalcis en direction du sud. Mykaletos est tout à fait en bas de carte. Donc là, nous ne sommes pas dans le territoire, certainement pas dans le territoire de Tanagra. On voit d'ailleurs que ce ne sont pas les gens de Tanagra qui viennent au secours des gens de Mykaletos, hein, comme on aurait pu l'attendre, mais les Thébains. Et par ailleurs, Thucydide indique qu'avant de se jeter à l'aube sur la ville sans défense, les traces, avec dit très fesse, bivouaquent en un endroit appelé Hermaïon, donc le sanctuaire d'Hermès, ou peut-être une borne hermaïque que l'on peut situer grâce à Thucydide à environ 3 km au nord, à 3 km au nord de Mykalessos, à l'endroit nommé ici X1, où les traces passent la nuit dans une position encore invisible, derrière une colline, de manière à ne pas se laisser remarquer par les gens de Mykalessos, une colline que Bakhuizen identifie à notre Hermaïon, un point de passage sur un col, tout près d'un col, le col de l'Aniphoritis, qui était fortifié, qui marque, on peut dire, la frontière réelle entre le B et sa Pérée, ici, devant Chalcis, et la baie aussi proprement dite, avec Mykalettos, le haut plateau de Mykalettos. Thucydide laisse voir par ailleurs que Mykalettos n'était ni une simple place forte, ni un bourg ouvert, mais une vraie petite ville entourée d'un rempart. Certes, ni très élevé ce rempart, ni en très bon état, il le dit de manière explicite, et pourvu non seulement d'habitations, oikiai, mais de hieras, de sanctuaires, et même d'une école. Didascaleion, dit-il, très fréquenté, dont on sait que les élèves furent justement les plus pitoyables victimes des assaillants ivres de sang. Tout montre ainsi que l'on a affaire à une cité nullement négligeable. Qu'Homère, déjà d'ailleurs, présentait comme Eurucoros, Mykalessos, belle épithète, et il se peut surtout que sa grandeur ait été souligné par Thucydide lui-même. Si l'on s'en tient au texte des meilleurs manuscrits, où l'on a mégalé où c'est, étant grande, mais on s'est cru obligé, pour des raisons de vraisemblance, d'adopter le texte d'un manuscrit secondaire qui a ajouté mégalé, qui a ajouté un où. Où mégalé où c'est. Là, c'est la vraisemblance seule qui a dicté le choix entre les deux leçons, comme s'il était exclu de penser que cette ville était grande. En réalité, ses vestiges, quoique très épars, montrent qu'elle était relativement étendue. C'est un cas curieux de choix philologique qui n'est peut-être pas totalement justifié. Mykalettos a-t-elle pu se relever après cette terrible catastrophe? Pausanias visiblement pensait que non, puisqu'il fait observer que si la ville était encore en ruine de son temps, c'était en raison du massacre général de la population, enfants et femmes compris. Car dans le cas contraire, dit-il, les rescapés seraient revenus sur le site. La preuve, à mes yeux, ajoute-t-il encore, Marturaimoi, c'est que les cités béotiennes qui avaient été autrefois détruites par Thèbes, il pense évidemment à Platée, à Thespie, aussi à Orchomène, était à nouveau peuplé de son temps. Le raisonnement est impeccable, mais la conclusion concernant Mykalessos est certainement erronée. Il est curieux, en effet, qu'il n'ait pas envisagé l'éventualité, a priori bien plus probable, que cet abandon du site de Mykalessos pût résulter d'un événement ou simplement d'un processus bien postérieur à l'événement déjà très ancien, un demi-millénaire, que rapporte Thucydide. De fait, si sanglante qu'eût été l'attaque de 413, anéantissant, il est vrai, une part non négligeable de l'élément le plus jeune de la population, les malheureux écoliers, elle ne signifia certainement pas la fin de la cité. Thucydide lui-même laisse voir que bien dit Mykalessien, en réchappèrent grâce à la prompte arrivée de la cavalerie thébaine. Au demeurant, rien n'indique que la ville ait été à cette occasion détruite de fond en comble. Disposant d'un territoire fertile, Mykalessos pouvait donc fort bien renaître de ce coup dur, comme en témoigne l'abondante céramique trouvée sur le site identifié depuis assez longtemps déjà par le voyageur allemand Ulrichs vers 1840, le site relativement célèbre, en tout cas chez les céramologues, de Ritsona. De Ritsona, des fouilles qui ont eu lieu, au début du, surtout au début du XXe siècle, mais qui n'ont pas abouti à une publication d'ensemble, malheureusement, et je crois qu'il n'existe, c'est un paradoxe, et ça tient au fait que les ruines sont très dispersées, mal conservées, il n'existe, je crois, aucun plan de cette ville, ce qui serait à faire. Donc, un matériel céramologique qui prouve que au IVe siècle encore et à l'époque hellénistique, la ville existait toujours, et on possède un témoignage encore plus probant, puisqu'il est de nature politique. Au IVe siècle, on a quelques émissions, certes des monnaies divisionnaires, mais des monnaies d'argent, des oboles et des plus petites unités comme celle-ci. Le bouclier béotien, l'emblème béotien général, et puis autour de part et d'autre de ce foudre qui prouve qu'il y avait un culte de Zeus important à Mykalessos, les lettres mu et upsilon. Hein, aucun doute que cette monnaie appartient, a été émise par Mykalessos, probablement. C'est la date traditionnelle et qui se défend aux alentours de 380 lorsque la Confédération béotienne connaît une espèce d'éclatement dont j'ai parlé suite à la paix dans Thalcidas. Et les cités retrouvent une certaine autonomie. Donc, ça prouve que Mykalessos non seulement existe en tant que localité, mais a une certaine, en tout cas, une certaine autonomie politique. Mais alors, qu'advint-il de Mykalessos après la destruction de Thèbes, quand Tanagra en profita pour faire passer sous sa domination les bourgs de Thymessos et Glissas? Est-ce que Mykalessos perdit alors son indépendance et progressivement aussi son attractivité pour n'être bientôt plus qu'une bourgade vouée au déclin et à l'abandon? Le fait qu'il n'y ait point de Mykalessioi dans les documents de l'époque hellénistique est peut-être, effectivement, un indice de son abaissement à partir du IIIe siècle déjà. Mais cette absence pourrait être fortuite et, en tout cas, provisoire. La prudence me semble être de mise, d'autant plus que, même s'il est, à travers les documents fédéraux dont j'ai fait l'analyse au départ, le district 3, le district de Tanagra, n'est toujours représenté que par des citoyens, par des Tanagraioi. Il se pourrait qu'apparaisse un jour un Mykalessioi, un Mykalessios. Hein. De même que nous avons pour le district 4, ça ressortait de mon tableau que je n'ai pas besoin de remettre, dans le district 4, ce sont toujours, pratiquement toujours, des orchoméniens qui représentent le district 4, mais une fois, il y a un citoyen de Kéroné. On pourrait dire de même dans le cas de Thespi. Thespi domine nettement le district 2, mais dans ce district 2, il y avait, on le sait, une petite cité autonome, qui est la cité de Siphae à l'époque hellénistique, dont un jour, on pourrait avoir un représentant, un citoyen, comme représentant du district 2. Donc, je ne tirerai pas des conclusions trop rapides de cet argument ex silencio, de même qu'on ne doit pas induire la disparition de Mykalessos du silence qu'observe à son endroit des auteurs hellénistiques, comme le Périégète Héracléides dit le critique, qui certes traversant la Béotie ne dit rien de Mykalessos, mais quand on y regarde de plus près, on voit qu'en réalité il n'a pas suivi la route de Thèbes à Chalcis, ni dans un sens ni dans l'autre. Même chose pour un poème intéressant à certains égards, des alentours de 100 avant Jésus-Christ, un poème géographique, celui qu'on appelle de ne connaissant pas son titre, de Dionysios, fils de Caliphon, qui ne fait pas de place non plus à Mycalessos. Mais comme ce poète ne dit rien non plus de citer comme Péroné ou comme Iétos, pourtant clairement autonome à l'époque de son poème, vous voyez qu'on ne peut pas en tirer argument. Pour Pausanias, l'ancien territoire de Mycalessos s'étendait jusqu'à la mer, car c'est près du rivage, à droite de l'Euribe, dit-il, que se trouvait le sanctuaire de Déméter Mycalessia. Ce sanctuaire de Déméter Mycalessia, je montre la suite du texte ici, n'est pas identifié qu'à partir de paragraphe 6, Oulis. Un peu plus loin, dit-il, il y a Oulis avec son Naos d'Artémis et ses deux agalmata de marbre blanc représentant la déesse, soit sous la forme d'archère, soit sous la forme de porteuse de torche. Ce sanctuaire d'Oulis, rendu célèbre par, donc qui est dans la baie au sud de Chalcis, ici, à sortir, ce sanctuaire d'Oulis, Pausanias l'a décrit de façon relativement précise, et on voit qu'il marque de l'intérêt, comme souvent chez lui, pour les beaux arbres de l'Alsos. Il note la présence près de la source sacrée d'un platane et aussi de palmiers dattiers qui produisent d'excellentes dattes, dit-il. Elles ne sont pas aussi bonnes que celles de la Palestine, note-t-il, preuve qu'il a fait le voyage de la Syrie, mais elles sont tout de même excellentes. Et il note surtout, ce n'est pas très fréquent chez lui, il a un regard, on peut dire, sur la population d'Oulis, en l'occurrence, pas beaucoup d'hommes, hein, oligoi, anthropoi, mais la plupart sont des potiers, des kerameis, produisant sans doute des statuettes et que l'on offrait à la divinité féminine du lieu, cette Artémis très honorée sur les deux rives de l'Euripe, aussi bien à Marinthos en Eubée qu'à Broron en Attique. Le port d'Oulis a certainement été l'échelle maritime par excellence des gens de Mycalessos, grâce à un chemin, vous l'aviez vu, qui va directement du port jusqu'au plateau de Mycalessos. Oulis n'a jamais été une véritable cité, hein, même si ce terme de polis lui est parfois accolé par les auteurs. Elle fait partie des localités qui très rapidement ont été en quelque sorte annexées par Thèbes, qui au 5e siècle et encore au 4e siècle a un débouché, là, malgré l'éloignement, hein, Thèbes a un intérêt à avoir cet excellent port d'Oulis, et donc elle exerce une certaine suzeraineté, sans doute, sur Mycalessos, comme cela ressortait du passage de Thucydide. Un épisode d'ailleurs l'illustre de manière remarquable au début du 4e siècle. C'est l'épisode où l'on voit le roi de Sparte, Agésilas, qui, avant de s'embarquer pour sa grande expédition d'Asie en 396, tient à faire un sacrifice dans le port d'Oulis à l'Artémis, tel un nouvel Agamemnon, si vous voulez, partant pour Troie. Mais l'épisode est connu parce que il a été dérangé, on peut le dire, perturbé dans son acte par l'arrivée inopinée de cavaliers thébains. Les cavaliers thébains, ce sont eux, et non pas des Tanagréens, qui dispersent les cendres du sacrifice. C'est que les autorités béotiennes étaient depuis assez longtemps en froid avec Sparte, l'ancienne alliée, et ne voulaient pas donc favoriser en aucune façon le succès de l'entreprise d'Agésilas en Asie mineure. L'année 335, là aussi, marque évidemment la fin de la mainmise directe ou indirecte de Thèbes sur Polis. Et même après 287, je le disais, quand les Thébains furent en mesure de recouvrir une partie de leur territoire, je crois qu'ils ne purent jamais revenir jusqu'à Aulis. Donc sur ce point, je ne puis pas être d'accord avec la vision que donne Corsten dans sa carte, pas trop favorable à Thèbes. La question qui se pose est de savoir si ce port tomba aussitôt au pouvoir de Tanagra, ou si peut-être elle resta, ce port resta essentiellement celui de Mykalessos. Car il faut en bonne méthode se garder peut-être de reporter immédiatement à la haute époque hellénistique les informations que nous possédons pour la période romaine. Il est certain en effet que dès le 1er siècle avant Jésus-Christ, Aulis faisait partie de la Tanagraïque. Il y a une série de témoignages, Strabon l'affirme clairement, Pausanias le confirme, on en a une preuve indirecte dans une monnaie que je ne retrouve plus, peu importe, d'époque impériale, monnaie émise par Tanagra, qui, au revers, illustre l'Artémis d'Aulis. Donc, les gens de Tanagra considèrent ce sanctuaire comme le leur. C'est absolument clair. Mais de quand date cette mainmise? La question est un petit peu plus controversée, difficile. Je la laisse ouverte. Il y a tout de même, dira-t-on, il y a des inscriptions qui ont été découvertes dans le sanctuaire d'Aulis lorsqu'il a été mis au jour dans les années 1950. Je crois que j'ai ici une image, quelques images montrant à la fois la baie d'Aulis, le sanctuaire et le temple, des plans de ce temple de plans encore assez archaïques, avec une espèce de prostoon, et puis une des statues découvertes avec une inscription sur laquelle je reviendrai dans un instant. Donc, dans le cas d'Aulis, il n'y a aucun problème de localisation, de topographie. Nous savons exactement où il se trouve. Des inscriptions, on en a découvert quelques-unes. Dans ce sanctuaire, malheureusement, elles ne sont pas nombreuses et elles n'ont pas été éditées de façon encore définitive. Il n'y a que des rapports de fouilles, pas de monographie d'ensemble. Je ne m'intéresse ici qu'à des inscriptions d'époque hellénistique qui pourraient éventuellement nous informer sur le statut d'Aulis dans la période intermédiaire entre la mainmise thébaine et la mainmise tanagraenne de l'époque impériale. Deux, si je vois bien, existent pour le moment. Et la première est chose un peu surprenante, un décret de la cité d'Érétrie, donc cité ébène en face, sur l'île, sur le rivage d'en face, c'est ce document-ci. Ce décret honore un citoyen de la Confédération acarnanienne vers la fin du IIIe siècle, et à ce titre, donc, le décret a été pris dans le recueil connu de Dan Billman pour ce genre de bienfaiteur. J'en ai moi-même, disons, repris l'étude dans mes décrets érétriens en 2001. Comment expliquer alors qu'un décret d'Érétrie puisse se trouver dans le sanctuaire d'Aulis en Béotie? On a cru pouvoir en rendre compte par le caractère soi-disant panhellénique d'Aulis. Certes, le sanctuaire est fort renommé, mais je crois que cette explication ne tient pas, car même pour les Tanagréens, le sanctuaire n'a jamais été ce qu'on appelle un épiphanestatos topos, un endroit où ils dressaient leurs décrets. On est donc obligé d'admettre que l'on a affaire à une pierre errante, une pierre qui vient du sanctuaire d'Apollon Daphnéphoros à Érétrie, dont le nom devait figurer dans la partie non conservée de la stèle, et donc cette pierre est arrangée parmi celles qui, dès l'époque romaine, ont été arrachées à ce sanctuaire, ont été réutilisées soit à Érythrée même, soit dans ces nécropoles, ou ici, de façon déjà dans un endroit déjà plus lointain.
Savoir ce matin, le Collège de France avec Denis Knopfler. Réalisation Thomas Duterre. Présentation Christine Goémé. Continue et innove. Du 14 au 20 octobre, tous les jours à 18h30, les disputes. Un nouveau concept de conférence qui entend remettre à l'honneur la notion des désaccords et renouer avec l'art de la discussion.
C'est pas ça le problème.
Venez découvrir les disputes, cette confrontation entre deux intervenants sur un sujet donné comme la prostitution, le nucléaire, la fiscalité.
Bon, je vous agresse pas, non, j'analyse votre propos.
Un cycle salutairement polémique, du 14 au 20 octobre, tous les jours à 18h30, Université Paris 5, 45 rue des Saints-Pères, à Paris, dans le 6e arrondissement. L'UTLS a retrouvé également prochainement sur France Culture, de 6h à 7h, dans l'Éloge du Savoir. Bonjour, vos rendez-vous de cette matinée sur France Culture, 9h05, la fabrique de l'histoire. Cette semaine, l'histoire des bonnes ou mauvaises mœurs. 10h, les humanités, ce matin, les lundis de l'histoire, histoire des femmes, histoire du genre, à propos de trois livres, La France, les femmes et le pouvoir, d'Eliane Viennot, Histoire d'historienne, de Nicole Pellegrin, et La loi du genre, de Laure Murat, trois auteurs invités de l'émission. 11h, les chemins de la connaissance, sur le thème Une histoire du milieu, explore ce monde à la fois glauque et coloré que l'on peut aussi découvrir à travers l'exposition de la Bilipo, la bibliothèque de littérature policière de la ville de Paris jusqu'au 31 janvier. Premier volet, l'invention du milieu, avec l'un des commissaires de l'exposition, Dominique Khalifa, historien, auteur de Crimes et cultures au 19e siècle, édition Perrin. Et tout de suite, debout, voici les matins de France Culture avec Ali Badou.
Bonjour à tous, c'est bon réveil, il est 6h59 tout juste et dans les matins ce lundi 16 à 7h20, les enjeux internationaux. Au programme aujourd'hui, le prix Nobel de la paix décerné, vous le savez, au Bangladais Mohamed Younous et à son établissement de microcrédit. Thierry Garcin analysera le sens et la portée de cet événement. Et puis à 8h20, notre invité sera le président d'Emmaüs France, Martin Hirsch. Il y a quelques mois, il proposait justement au président de la République un projet de banque sociale, un projet pour satisfaire aux besoins de crédit des plus démunis, ceux qui sont exclus du système bancaire traditionnel. Les chiffres indiquent qu'il serait plus de 6 millions dans tout le pays, en France donc. On s'arrêtera aussi sur le code des droits contre l'exclusion que Martin Hirsch a co-dirigé et qui paraît chez Dalloz, un guide pour faire valoir ses droits quand on est en situation de grande précarité ou d'exclusion, et qui répond aussi à un certain nombre de questions très concrètes. Comment bénéficier d'un HLM? Quels sont les recours en cas de licenciement? Quelles démarches poursuivre pour obtenir une prestation sociale? C'est demain mardi la célébration de la journée mondiale de lutte contre la pauvreté. On va en parler tout à l'heure avec Martin Hirsch. Martin Hirsch donc qui publie ce guide contre la pauvreté, un guide des droits assez passionnant qui s'arrête sur les différentes formes de discrimination, sur les questions de protection sociale, de logement, d'emploi. Un livre qu'il a dirigé avec Denis Chemla. Vous savez que Denis Chemla, c'est celui qui dirige l'association Droits d'urgence, et c'est justement de cette urgence dont il sera question tout à l'heure dans l'émission. Pour l'heure, place à l'information. Vous écoutez France Culture, il est 7h. On allait présenter par Marie-Pierre Véraud. Bonjour Marie-Pierre.
Bonjour Ali et bonjour à tous. Les feux mal éteints dans les banlieues. Un an après les émeutes en région parisienne, les syndicats de policiers dénoncent des agressions organisées contre les forces de l'ordre. Des guet-apens, elles réclament des sanctions exemplaires. Nous en parlerons deux jours après l'attaque contre des policiers de la BAC à Épinay-sur-Seine. Les attaques verbales, cette fois, elles ont fusé ce week-end au sein de la majorité. Chiraciens et sarkozistes n'ont jamais été aussi près d'en découdre. Pendant ce temps, nous verrons avec Christian Galland que les anti-libéraux croulent sous les candidats et peinent à en choisir un pour incarner leur projet. À l'étranger, nous irons notamment en Israël, secoué par un scandale de mœurs touchant le président, et en Côte d'Ivoire, où le président Gbagbo agite les sentiments anti-français alors que son mandat arrive à échéance. Ce sera un reportage d'Emmanuel Leclerc. Voilà une affaire qui n'augmente pas le crédit d'une classe politique déjà bien désavouée par la population. Après l'échec de la guerre au Liban, qui n'a permis ni de désarmer le Hezbollah, ni de faire libérer les soldats israéliens enlevés, Israël doit faire face à un scandale qui touche le chef de l'État. Sa fonction, à bon être honorifique, très protocolaire, il incarne en général la sagesse entre les partis et doit être le garant de l'unité d'une société fracturée. Or, le président israélien Moshe Katsav se retrouve dans la tourmente et les accusations dont il fait l'objet sont très graves, viol, harcèlement sexuel, entre autres. L'enquête de la police est bouclée, elle est sans appel. Le président lui nie toutes les accusations en bloc. Alors, sera-t-il inculpé? C'est maintenant au procureur général de prendre une décision. Mais d'ores et déjà, il s'agit des accusations les plus graves jamais portées contre un représentant politique en fonction dans le pays. Frédéric Barrère nous appelle de Jérusalem.
C'est sans précédent en Israël, le président Moshe Katsav croule sous les accusations. Viol, agression sexuelle, fraude, malversation. La police israélienne, dans un communiqué, accuse clairement le chef de l'État d'avoir commis des actes de viol. 10 femmes ont porté plainte contre Moshe Katsav. La police recommande l'inculpation du président Katsav. Les enquêteurs expliquent également que le président israélien aurait enfreint la loi sur les écoutes illégales en faisant surveiller les conversations téléphoniques de ses employés. Il aurait également accepté de l'argent en échange de grâces présidentielles accordées à des prisonniers. Moshe Katsav nie tout en bloc, il affirme qu'il est innocent et qu'il est victime d'un chantage. Le président israélien, qui bénéficie d'une immunité pendant son mandat, refuse de démissionner. Il doit présider cet après-midi la cérémonie d'ouverture de la session d'hiver de la Knesset. La presse israélienne parle d'une tempête en préparation au Parlement israélien. Plusieurs femmes députées ont fait savoir que la présence de Moshe Katsav ne serait pas supportable.
Et Moshe Katsav a fait lui savoir qu'il ne s'adresserait pas au Parlement lors de l'ouverture de cette session d'hiver. Ce sera une première dans l'histoire d'Israël. En Équateur, il y aura un second tour à la présidentielle et il opposera le roi de la banane, le milliardaire de droite Alvaro Noboa, à son rival de gauche, l'économiste Rafael Correa, un proche de Chavez, très anti-américain. C'est le conservateur qui arrive en tête avec plus de 5 points d'écart alors que tous les suffrages n'ont pas été encore dépouillés. Sa remontée spectaculaire dans les sondages en moins d'une semaine a surpris tous les observateurs. Dans l'actualité étrangère, en bref, encore la tournée asiatique de Condoleezza Rice. La secrétaire d'État américaine se rend notamment en Chine pour convaincre la Chine et les voisins de la Corée du Nord d'appliquer avec fermeté les sanctions adoptées contre Pyongyang samedi par l'ONU. Condoleezza Rice sera également à Tokyo et à Séoul pour discuter de la crise nucléaire nord-coréenne. Ce week-end, l'ONU a donc finalement adopté une résolution moins ferme que souhaitée par le Japon contre Pyongyang après l'annonce d'un essai nucléaire, c'était lundi dernier. La résolution prévoit un embargo sur sur les armes lourdes, sur les matériels liés à la technologie nucléaire ou à celle des missiles, ainsi que sur les produits de luxe. Résolution qui appelle également à l'inspection de toutes les cargaisons à destination ou en provenance de Corée du Nord. C'est là un point qui coince pour la Chine qui a d'ores et déjà fait savoir qu'elle ne participerait pas à ces inspections qui peuvent, dit Pékin, à tout moment dégénérer en conflit. De nouveaux soldats américains tués en Irak, cela porte à 52 le nombre de militaires américains tombés au combat depuis le début du mois. Ils étaient plus de 10 000 les opposants à Laurent Gbagbo.